Kinshasa. Je suis tout à fait...
Moi, c'est André Dumbuzmaï, au Kassai Oriental. J'ai refusé totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi, au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parole aux auditeurs, votre espace d'expression sur Radio Okapi. Le ministre des Mines, Louis Watoum, a ordonné au début de cette semaine, lors de sa mission d'itinérance en Ituri et au Maniema, la fermeture immédiate de plusieurs sites illégaux d'exploitation d'or. Cette décision vise à remettre de l'ordre dans un secteur gangréné par l'informel et à maximiser les recettes publiques. Que vous inspire cette mesure? Comment mettre fin aux pratiques illégales telles que la fraude et la contrebande dans le secteur minier? Parle aux auditeurs à bord de cette thématique aujourd'hui avec Maître Donald Kabasele d'Ivoanda, avocat expert en droit minier et carrière. Pour participer à cette émission, chers auditeurs, faites-nous parvenir vos questions à pa@radiocapi.net. Laissez-nous un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs ou contactez-nous au 089 559 83 37. L'animation de cette émission, Jocelyne Moussaoupondé, Sylvain Baogueré la met en onde, Nancy Atambo la réalise sous la supervision de Jean-Marc Matouaki, Esther Mamboté et Meshak Mboutamoutou assurent le live sur nos réseaux sociaux et clin d'œil à Grâce Vouezolo.
Okapi, pour que la paix ne soit pas qu'une belle idée.
Bonjour à tous. Le ministre des Mines, Louis Watoum, a ordonné la fermeture immédiate de plusieurs sites illégaux d'exploitation de l'or lors de sa récente mission en Ituri et au Maniema, une mesure qui vise, je l'ai dit, à lutter contre la fraude et la contrebande dans un secteur stratégique pour l'économie congolaise. En attendant que notre invité nous rejoigne dans ce studio, chers auditeurs, vous pouvez déjà commencer à nous appeler, à nous joindre pour contribuer à cette émission. Vous pouvez, je l'ai dit tantôt, nous écrire à pa@radiocapi.net, nous laisser un commentaire sur notre page Facebook Parole aux auditeurs, nous contacter au numéro 089 559 83 37. Déjà quelques auditeurs sont en ligne. Victor Nzuzi est un Banzangungu dans le Congo central. Bonjour Victor Nzuzi. Victor Nzuzi, veuillez ouvrir votre micro et prendre la parole. Victor Nzuzi, est-ce que vous nous suivez? Non, malheureusement, on va prendre le coup de fil de Blaise Saïdi qui nous appelle depuis Kisangani. Blaise Saïdi, bonjour.
Bonjour aux auditrices, auditeurs de la radio Capi, y compris l'invité.
Blaise Saïdi, nous parlons de la décision du ministre des Mines de fermer les sites illégaux d'exploitation de l'or. Que vous inspire cette décision du ministre Louis Watoum?
Oui, merci madame Jocelyne. Je salue vraiment la pertinence de cette thématique que votre magazine a pu organiser et inviter aussi l'un des connaisseurs de matière, Maître Kabasele. Voilà. Donc ici, je vais donner une contribution à cette thématique et je vais citer par quelques interrogations. Donc, chère Jocelyne, à mon avis, cette mesure est une bonne initiative, mais elle arrive dans un contexte où l'État doit encore prouver sa capacité à aller jusqu'au bout de cette décision.
C'est-à-dire?
Fermer des sites est une chose. Mais contrôler durablement le secteur est autre chose. Je pense qu'il faut éviter une approche uniquement répressive. La majorité des creuseurs ne sont pas des criminels, mais des citoyens en quête de survie. Si on ne leur offre pas d'alternatives concrètes ou un cadre légal accessible, ils retourneront inévitablement dans l'illégalité. Chère Jocelyne, pour moi encore, la vraie solution réside dans un équilibre entre fermeté contre les réseaux mafieux et accompagnement des populations locales. Sinon, cette décision risque de rester un coup d'éclat sans impact profond. Je dois poser deux questions seulement. La première question, pourquoi les autorités ont-elles longtemps toléré ces pratiques avant de décider aujourd'hui d'y mettre fin? Et la deuxième question, quelle alternative concrète est proposée aux populations qui vivent dans l'exploitation artisanale? Je me limite à ce niveau-là pour donner place à d'autres personnes.
Merci Blaise Saïdi de nous avoir appelé depuis Kisangani. Nous reprenons Victor Ndzouzi qui est à Mbanzangungu dans le Congo central. Bonjour Victor.
Bonjour à vous, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent.
Quelle est votre contribution à cette émission, Victor Ndzouzi?
Oui, le problème se pose un peu partout en RDC. Et chez nous, au Congo central, quand vous prenez les territoires de Luwezi, dans le secteur de Mbanza Monde, là on signale dans les villages de Kindi et Ngandantombe, on signale une exploitation illicite, et même par des personnes qui reçoivent des documents de la division des mines à Matadi, sans pour autant que la population locale soit informée. Et dernièrement, il y a eu des affrontements entre la population locale et quelques creuseurs. Donc, on parle des creuseurs qui viendraient de Haute-Olé et de l'Ituri. Et ça inquiète les citoyens. On sait que les Congolais doivent se déplacer librement. Mais quand il y a une exploitation pareille, moi, je pense que l'autorité, le chef coutumier, sinon les communautés locales doivent quand même être saisies et cadrer les activités. Quand vous allez à Sekebanda, là, il y a même des Chinois qui exploitent illégalement. Et l'Assemblée provinciale est intervenue pour interpeller le gouvernement provincial. Donc, c'est pour vous dire simplement qu'il y a de sérieux problèmes dans ce domaine, mais c'est l'encadrement. C'est l'encadrement qu'il faudrait faire de ces creuseurs, mais aussi arriver à parler de l'impact environnemental. Parce que l'exploitation de l'or, dans l'exploitation de l'or, on fait toujours usage du mercure. Et les eaux sont polluées. Donc, il faut vraiment arriver à encadrer la population. Donc, et en Banzangungu, il y a le secteur d'Intimansi qui pose problème, où les gens sont en train de s'accaparer des terres. Ceux qui connaissent déjà qu'il y a des minéraux, ils s'accaparent des terres. Bon, vous vous imaginez, lorsque dans Banzangungu, il y a plus de 500 carrés miniers, sans pour autant que les communautés locales soient informées. Et les carrés, un carré minier, c'est presque un kilomètre, pardon, c'est presque un hectare. J'ai dit que c'est presque un hectare, bien que c'est 80 quelque chose d'arbre. Alors, quand les communautés locales ne sont pas informées, on exploite, on fait des prospections, je pense que ça ne peut pas donner la paix. Et nous, au Congo central, nous sommes très inquiets que demain, ce qui arrive dans d'autres provinces, le problème d'insécurité, la guerre et consorts, arrive dans le Congo central. C'est pourquoi nous demandons à l'autorité de pouvoir déjà s'imprégner de cette affaire. Et au niveau de notre province, nous demandons aussi au gouvernement provincial de pouvoir préparer des experts, non seulement dans l'exploitation de l'or, mais dans l'exploitation de manganèse, comme l'exploitation du cuivre ou du fer. Parce qu'aujourd'hui, on exploite déjà le cuivre en Bambakilende dans le Madimba, demain ça sera le manganèse à Luozi, et après demain ça sera les contrats signés entre Kimpango et Kulungongo pour l'exploitation du coltan et cobalt. Donc il est temps vraiment que l'autorité provinciale prépare déjà des cadres, sinon des ouvriers qui peuvent travailler là-dessus, et que nous puissions demain bénéficier de ces minéraux, et non vivre les réalités que nous vivons actuellement avec le pétrole, où la province ne gagne presque rien. Donc voilà ce que je pourrais dire. Mais en tout cas, Kinshasa, nous sommes depuis qu'on donne des grandes concessions agricoles à certaines personnes sans parfois l'administrateur du territoire ou le chef de secteur sur place ne soit informé. Et nous savons que toutes ces exploitations agricoles qu'on donne comme ça, ce sont des exploitations où il y a des minerais. Nous ne connaissons même pas. Moi, c'est en lisant la monographie des potentiels en minerais du Congo central qui a été édité par le gouvernorat en 2016 que j'ai vu qu'il y a beaucoup de carrés miniers dans mon territoire en Bazangou.
Mais selon vous, Victor Nzouzi,
nous les intellectuels, on ne connaît même pas.
Mais c'est quoi l'attitude à prendre selon vous? Est-ce que faut-il lancer, faut-il commencer l'exploration? Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement selon vous? Qu'est-ce que vous demandez concrètement?
Donc, concrètement, il faudrait que ce domaine-là, ça soit un domaine où ceux qui veulent l'exploiter doivent avoir légalement des documents. Ceux qui exploitent déjà officieusement ou ceux qui exploitent artisanalement, on doit les encadrer. Et les recettes doivent entrer dans le trésor public et la part qui devrait revenir aux communautés locales, cette part-là doit réellement revenir aux communautés locales. L'exploitation des minerais a toujours des conséquences environnementales terribles. Et donc, il ne faudrait pas que la population soit victime de cette exploitation, que la population soit dans la pauvreté, dans la misère, alors qu'il y a des personnes qui s'enrichissent déjà ou qui vont s'enrichir. Avoir un carré minier, le carré minier seulement, ça rapporte de l'argent, je crois que c'est 5 dollars par an. Mais quand vous avez, par exemple, dans un territoire 2000 carrés miniers, mais qu'est-ce qui arrive dans le secteur? Qu'est-ce qui arrive dans le village? Rien. Donc, voilà ce que nous recommandons et j'espère que l'État, cette fois-ci, sera à l'écoute pour que la voix du peuple soit quand même entendue, surtout nous paysans. La loi minière est au-dessus de la loi agricole. Nous craignons la confiscation de nos terres agricoles aussi. Là, c'est un problème aussi très sérieux.
Merci beaucoup, Victor Nzouzi, pour votre intervention depuis Banzangungu. Nous nous rendons à Lubumbashi pour prendre le coup de fil de Jonathan Bantou. Bonjour, Jonathan.
Oui, bonjour, Saou, et bonjour.
Vous êtes dans... Oui, vous êtes dans une région minière. Vous devez être touché particulièrement par cette décision. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, cette fermeture de sites miniers illégaux décidée par le ministre de Mines, Luwatum?
Eh bien, en fait, j'accueille à bras ouverts la décision du ministre de Mines des sites illégaux d'exploitation de l'or. Étant donné que cette décision vise à mettre de l'ordre dans très très important pour les et à lutter contre.
On a du mal à vous suivre, Jonathan Bantou. Vous pouvez vous déplacer un tout petit peu pour espérer améliorer la qualité de cette liaison téléphonique.
Oui, ça va.
Ok, allez-y.
Oui, face à ce sujet.
Malheureusement, on a du mal à suivre Jonathan Bantou. On va tenter de le rappeler. En attendant, on se rend à Bandundu. Brunel, Jonathan est toujours en ligne apparemment, mais on a du mal à le suivre. On va prendre Brunel Ndombe qui nous appelle depuis Bandunduville. Bonjour Brunel. Brunel, est-ce que vous êtes en ligne? Est-ce que nous sommes avec Brunel ou c'est toujours Jonathan Bantou qui nous appelle depuis Lubumbashi?
Oui, c'est toujours Jonathan Bantou.
Oui, je suis en ligne, madame.
Nous avons deux auditeurs en même temps. Si la réalisation peut clarifier cela et ne garder qu'un seul auditeur en ligne, parce que là, visiblement, nous avons et Brunel et Jonathan. Nous prenons Brunel, c'est vous en ligne? En attendant de clarifier cela, Jean Zadi intervient depuis Kinshasa.
Ouais, je suis toujours en ligne, madame. Ah, j'étais en train de dire que...
Oui, allez-y.
Oui, oui. J'étais en train de dire que la décision du ministre est une bonne décision.
Oui.
Mais de l'autre côté, il faut que cette décision soit bien sûr bien encadrée. Nous savons qu'il y a 80 à 90% de l'or congolais sort du contrebande. Mmh. Anituri, Maniema sont des plaques tournantes, bien sûr, de ces mouvements. Mmh. Un élément sur 10 seulement passe par le circuit officiel. Et dans l'Est de la République démocratique du Congo, vous savez que l'or illégal finance directement des groupes armés. Fermer un site, c'est parfois couper, bien sûr, le vivre à une milice. Ces sites font vivre, bien sûr, des dizaines de milliers de trésors. Permet sans alternative de pousser, bien sûr, des familles entières, bien sûr, dans la misère ou dans les bras, bien sûr, des mafieux. Mmh. Et également, il faut rendre obligatoire les pionçonnages et la certification de l'OPI. Un or sans carte d'identité devient invendable. Mais si aujourd'hui la Banque centrale paye l'or au vrai prix international en cash et sur place, pourquoi les Congolais iront bien sûr risquer leur vie en Ouganda et ailleurs? Mm. Mais de l'autre côté, le gouvernement congolais doit installer bien sûr le comptoir d'achat légaux, mm-hmm, au plus près bien sûr des carrés minières. Aujourd'hui, les Crésiens doivent faire bien sûr 200 km de pieux de route pour vendre bien sûr légalement. Mais moi, je pense que ce qui favorise bien sûr cette fraude.
On a perdu Brunel Ndombe qui nous appelait de Bandundu, malheureusement, et qui pense que l'État doit plutôt encadrer les créseurs qui vivent aussi de cette activité et dont plusieurs familles dépendent. Nous restons à Kinshasa pour reprendre le coup de fil de Jean Zadi, si c'est pas lui qui intervenait tout à l'heure. En tout cas, non, c'était pas Jean Zadi. Bonjour Jean Zadi, si vous êtes en ligne, activez votre micro et vous pouvez prendre la parole. Bonjour.
Bonjour madame, bonjour la Radio Capi et bonjour à l'invité du jour et bonjour à tous les téléspectateurs de la Radio Capi, madame.
Merci.
Merci. Ce sujet, madame, est d'une catastrophe vraiment très 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 important. C'est un sujet qui touche à la vie nationale, n'est-ce pas, de Congolais et Congolaises. Vous savez que notre pays, château d'Afrique, a une richesse minière incommensurable. Et notre pays n'est pas égal à un autre pays par rapport à toutes ces richesses minières que nous avons. C'est ainsi que la décision prise par le ministre Atoum, c'est une bonne décision que nous applaudissons, que nous avouons. Mais, madame, vous savez qu'il y a des choses qu'il faut carrément revoir, beaucoup de choses par rapport à notre économie. Mmh. Donc, comparativement à l'ancien président qui avait sa gestion sur la mine, aujourd'hui aussi encore il y a une autre gestion sur la mine. C'est pourquoi nous avons même assisté à des cas tels qu'il fallait revoir le code minier, ainsi de suite. C'était dit à toutes ces histoires ici qui se passent dans deux mines. Et donc, moi, je trouve qu'il est certain que nous devons d'abord lutter contre la corruption, madame. Nous devons lutter contre la corruption, assurer également aussi le respect de normes environnementales, et de veiller à ce que le revenu minier profite aux communautés locales, ce qui n'est pas du tout le cas en République démocratique du Congo. Et donc, Il faut mettre en place certains actes principaux pour améliorer ce secteur minier qui est un secteur capital. Mm. Et donc c'est pour cela que je propose, d'abord il faudrait qu'il y ait la transformation locale et industrialisation. Donc mettre en place des politiques fiscales et juridiques pour encourager la transformation de minerais. Mm-hmm. Hein, donc sur place, donc au lieu de d'exporter de matières brutes. Et deuxième de proposition, c'est par rapport à la gouvernance et la transparence. Ça pose aussi un problème très sérieux et donc il faut renforcer la lutte contre la corruption. Je reviens toujours, la lutte contre la corruption, en publiant bel et bien les contrats. On doit publier les contrats miniers. Et donc aussi en identifiant le bénéficiaire effectif, et, mais également en améliorant la gestion des entreprises d'État. Il faut qu'on améliore la gestion des entreprises de l'État. Mmh. Mais aussi, troisième proposition, je m'en vais vite, madame, c'est donc la formalisation de l'artisanat, donc minier. Donc qu'on puisse formaliser l'artisanat minier. Donc c'est structuré, bien évidemment, ou formaliser l'exploitation minière artisanale pour intégrer le minier, par exemple, dans les circuits légaux, assurer la tranquabilité, surtout à ce niveau-là où j'en suis, et améliorer aussi leurs conditions de travail. Mais enfin aussi, la quatrième proposition, c'est la conformité environnementale. Il n'y a pas une conformité environnementale et sociale. Donc, il faut appliquer strictement ce qu'on appelle la réglementation environnementale et obtenir aussi le consentement des populations locales. Parce que cela se passe d'une ou d'une autre manière où on ne comprend rien comment ces choses-là se font dans deux mines. Et donc, grandir aussi la réhabilitation de sites miniers. Et la dernière de proposition, en fait, je pose une question ou deux questions à l'invité, c'est ce qu'on doit aussi voir la gestion de revenus et la diversification. Et donc là, il faut réévaluer. On doit réévaluer le régime fiscal à la République du Congo pour maximiser la mobilisation de recettes, madame, et aussi réinvestir le revenu de la diversification de l'économie.
Jean-Sébastien, vous avez notre invité n'est pas encore là. Madame.
Vous êtes où nous sommes au Kasaï Central. Kasaï Central, dans le territoire de Luisa. Dans le territoire de Luisa, il y a un village qu'on appelle Kabanda-Moussefou. Si vous avez déjà entendu parler de ça, il y a l'or de Kabanda-Moussefou. C'est vraiment l'or qui a des teneurs très, très, très avancées. Mmh. Mais si vous arrivez à Kabanda-Moussefou, madame, je vous dis que ce n'est que les expatriés qui sont là, qui sont en train d'exploiter l'exploitation de l'homme par l'homme dans des mines, hein, dans des mines, surtout la Kabanda-Moussefou. Et j'en ai vraiment de près parce que j'y suis passé par là, madame. C'est trop grave. C'est trop grave quand vous y arrivez. Ça va vous étonner. Vous quittez là-bas, allons-nous encore dans la province de Haute-Ouélé, où j'ai été encore, particulièrement dans quelques territoires que je maîtrise bien, le territoire de Wamba, Wacha, Farah, du Dungwe et Nyangara. Mais si vous êtes à Wacha, là où il y a la mine de Kibali Gold Mining, je vous dis l'exploitation qui se passe de l'autre côté, vous ne pouvez pas vous imaginer comment on exploite les Congolais, madame. Et tout ça, c'est dans le cadre de cette ère aussi de sous-traitance. Dans le cadre de cette ère de sous-traitance, on engage des Congolais par des expatriés. Et ces Congolais qui sont engagés, par exemple, pour ce qu'on appelle, ils sont des sentinelles, gardiennages, ça et là, mais ces Congolais font des travaux au lieu de faire le travail. Vous verrez quelqu'un qui est là, il est là tantôt, il est en train de nettoyer les habits, il fait la lessive, il fait ça, on la voit pour aller payer ça et là. Mais dans tout ça, il ne gagne rien. C'est ces expatriés-là qui ont aujourd'hui l'économie entre leurs mains. De la République de moitié du Congo, qui en bénéficient. Et ils sont payés à des fois de 2000 dollars, 3000, mais un Congolais qui vous gagne de 80 dollars, à quand il va aussi se retrouver? À quand il va payer une parcelle pour laisser un monde à venir à ses enfants? Donc, c'est compliqué avec toutes ces histoires, madame, et je m'en vais poser la question directement à l'invité.
Malheureusement, notre invité n'est pas encore au studio. Merci Jean Zadi. Merci de nous suivre aussi hein, quand vous intervenez, parce que c'est un dialogue finalement, c'est pas un monologue. Merci hein, pour cette intervention pertinente depuis Kinshasa. Jean Zadi, c'était carrément un coup de gueule. Hein. on va se rendre en Ituri pour rejoindre Dieudonné à Dubango, qui est dans une zone minière, qui doit nécessairement avoir beaucoup à nous dire. Activez votre micro, Dieudonné à Dubango, et prenez la parole. Bonjour. Dieudonné à Dubango, vous êtes déjà en ligne, vous pouvez activer votre micro et parler si vous nous suivez. Bonjour. Malheureusement, il n'est pas là. On va tenter de le rappeler. Jérémy Mwamba est à Lubumbashi. Bonjour, Jérémy. Votre micro est désactivé, Jérémy Mwamba. Si vous pouvez l'activer et prendre la parole. C'est ce qu'on va demander à Georges Kilangalanga, qui nous attend aussi depuis Bounia en Ituri. Si vous nous suivez, activez votre micro pour prendre la parole et vous exprimer. Nous sommes avec Georges Kilangalanga depuis l'Ituri, depuis Bounia en Ituri. Georges Kilangalanga, bonjour. Dites-nous d'abord comment ça se passe concrètement dans votre région qui est... une région très riche en minerais.
Oui. Bonjour madame, bonjour à tous les auditeurs de la radio Okapi. Je voulais faire une précision, je suis à Kinshasa et non à Ituri.
Ah, dommage. Alors, ouais. Quelle est
justement, vous ne vous êtes pas trompé, je viens de l'Ituri.
Parce qu'on a l'habitude de vous avoir moment, en Ituri, oui, voilà.
Exactement.
Et bon séjour à Kinshasa. Allez-y, on vous écoute.
Alors, merci déjà pour les thèmes d'aujourd'hui. Mais il faut faire d'abord, il faut commencer par un état des lieux. Madame, dans la province de l'Ituri, tout comme dans la grande, parce que c'est là où je vécu un peu plus longtemps, vous trouvez au fond de village des Chinois qui sont là, qui exploitent avec des machines, qui n'ont que des permis de recherche, mais ils se permettent d'exploiter. Mais curieusement, dans ces sites miniers, vous trouvez également les militaires. Vous trouvez les militaires qui les sécurisent. Alors, la question qu'on se pose, qui envoie ces militaires dans ces sites miniers? Et la réalité même de l'environnement, la population est très pauvre. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de développement dans ces milieux-là. Donc, les étrangers viennent, ils pillent le minerai, ils partent. Les Chinois sont des rois. Quand on voit un Chinois, moi, il m'est arrivé un jour dans la frontière avec l'Ouganda, on partait. Les Chinois, on les considère comme des rois. On ne sait pas, bon, c'est quel type de gouvernance, c'est quel type de traitement que les Chinois ont. Bon, je n'ai pas de problème avec ça, c'est généralement donc, c'est comme ça qu'on traite les étrangers dans notre pays.
Vous saluez donc cette décision du ministre de Mines hein, pour mettre fin à ce que vous qualifiez de désordre sur le terrain.
Exactement. C'est une décision vraiment salutaire, une décision à saluer. Mais là où il y a un peu de problème, c'est que ça ne suffit pas de décider. Il faut décider, mais il faut mettre les mesures en application. Je rappelle que c'est pas la première fois qu'on prend cette décision. Mais quand on prend des décisions, on ne les applique pas. Donc on n'a rien fait. L'État, c'est décider. Quand on décide, on applique. Mais quand les individus résistent aux décisions de l'État, c'est là où ça devient un problème. Et puis, madame, le problème de l'exploitation minière est connu. On connaît depuis des années que c'est l'anarchie qui règne. Tous les Chinois qui sont là, tous les étrangers qui exploitent là-bas, ils ont des parapluies quelque part. C'est pourquoi moi j'ai dit, si on peut décider de mettre de l'ordre dans ces secteurs, il faut prendre une décision globale, impliquer les autres institutions qui interviennent principalement dans la migration, les étrangers qui entrent, qu'est-ce qu'ils font? Impliquer la justice. Dans le secteur minier, on a une structure très importante qu'on appelle l'inspection des mines. Moi, je ne sais pas si cette inspection fait quoi. On a des inspecteurs de mines. Mais comment les étrangers se retrouvent là-bas et exploitent
de manière artisanale,
sans que ça qui de manière désordonnée. Et ça se discute dans des assemblées provinciales, au gouvernement, mais finalement, rien n'échange. Je pense qu'il faut, il faut restaurer la sanction. J'invite ici le ministre à associer les autres institutions, notamment l'inspection de mines, la justice, l'armée même qui envoie des militaires pour sécuriser ces exploitants illégaux, afin qu'une décision globale soit prise. Mais s'il n'y a pas de sanctions, je pense qu'on va revenir prochainement pour parler du même sujet et il n'y aura rien qui va changer.
Merci beaucoup, madame. Merci, Georges Kilangalanga, depuis Kinshasa. Vous insistez que le ministère de Mines associe les autres institutions pour renforcer et faire appliquer cette nouvelle décision. Jeannot Louembo est à Kolwezi. Merci de nous rejoindre. Bonjour, Jeannot.
Madame Jocelyne, je vous salue. Je vous remercie du choix fait sur le thème. J'ai sali ainsi tous ceux qui sont auditeurs aujourd'hui. Merci encore une fois du choix fait sur le thème. Nous faisons face à une réalité, hein, qui est réelle. C'est-à-dire, avant l'avènement des entreprises minières, industrielles, nous étions dans une sorte de désordre, parce que dépourvu d'intelligence de la transformation. C'était l'artisanal. Il n'y a pas longtemps qu'on a essayé de formaliser en amenant ici ceux qui avaient l'intelligence de la transformation, qui pouvaient d'une manière propre créer des entreprises minières afin de bien canaliser ces richesses, les richesses que nous avons. Mais c'est fait que par la venue de ceux qui ont l'intelligence de la transformation, je parle des étrangers, l'État est en train de se combattre contre lui-même, de se battre contre lui-même, ce qu'on appellerait autrement des guerres intestinales, hein, comprenez ça comme ça, c'est-à-dire l'État est en train de permettre l'entrée illégale de ces géants d'intelligence de la transformation, chinois, indiens, consorts, et le même État vient pour essayer de se combattre lui-même en voulant régulariser cela. Qui est cet expatrié qui aura le courage de quitter chez lui et de venir tête haute venir imposer sa loi faisant d'une manière illégale l'exploitation de nos minerais sur Congo, sans qu'il n'ait eu l'autorisation des autorités ici au Congo, ceux qui dirigent l'État. C'est-à-dire, un Chinois ne peut jamais quitter chez lui avec ses bagages pour dire je vais exploiter au Congo sans qu'il n'ait l'aval, l'autorisation d'une autorité quelconque. Voyez, donc la décision, ce qui fait que la décision prise par le ministre, c'est une décision bonne pour nous autres, mais qui est aussi nuisible pour certains de ses collègues. Parce que si nous fouillons bien, il y a certains sites qui sont qui ont à leur des réfugiés aux Congolais à l'accès aux Congolais, mais de permettre l'accès aux étrangers. Donc vous comprenez que
malheureusement, on a du mal à suivre.
Pour aller.
Jeannot Louembo, la ligne est en train de se détériorer. On n'arrive plus à vous suivre. Merci pour votre intervention. On va rejoindre Maître Omar Kigalo qui nous appelle depuis Kinshasa. Un juriste, hein, parmi les intervenants. Maître Louembo, bonjour. On va en profiter pour vous poser cette question. Est-ce que vous pensez qu'il y a des failles juridiques qui permettent l'exploitation illégale? Malheureusement, on a perdu aussi Maître Kigalo. Non, c'est Jeannot Louembo qui est parti. Donc, on va prendre le coup de fil de Omar Kigalo. Omar Kigalo, est-ce que vous êtes avec nous? Bonjour.
Bonjour Madame Jocelyne, bonjour à tous les auditeurs de la Radio Capi.
Alors en tant que juriste, je disais, est-ce que vous pensez qu'il y a des failles juridiques ou institutionnelles qui permettent l'exploitation illégale dans le secteur minier?
Il y a plutôt des failles au niveau de l'application de lois qui existent déjà. Vous m'avez présenté comme juriste et le bon sens voudrait que je commence par poser les jalons pour dire en RDC, Madame Jocelyne, le domaine minier est bien réglementé par la loi du 11 juillet 2002 qui a été modifiée le 9 mars 2018. C'est parmi les meilleures lois au monde parce que cette loi a apporté plusieurs innovations. on a d'abord renforcé le mécanisme d'octroi des droits miniers. Mm-hmm. Parce qu'on a constaté depuis toujours, c'est de manière anarchique que ces droits sont accordés. Deuxième chose, on a aux titulaires de droits miniers de respecter les normes environnementales et aussi de poser des actes pour le développement des communautés locales. Troisième chose, on a renforcé les systèmes fiscaux. Donc au niveau du texte, Madame Jocelyne, le problème ne se pose pas. Mmh. D'après c'est tout là pour toucher les problèmes épineux de votre émission. Qu'est-ce qu'on attend par titre minier? C'est toute zone géographique dans laquelle on est autorisé à exploiter soit l'or, le cobalt et autres mines. On appelle site illégal tout site qui est exploité sans autorisation étatique. Si vraiment les gens étaient sérieux, Madame Jocelyne, on n'aura pas tous ces problèmes. Mmh. D'après la loi que je citais de 2018, avant d'octroyer un droit minier à quiconque, il y a trois études qui sont faites. L'étude cadastrale par les cadastres miniers qu'on appelle le CAMI. L'étude environnementale et sociale par l'Agence congolaise de l'environnement. Il y a aussi l'étude technique par la direction de mines. Et pour payer, ou pour avoir accès, il faut payer au minimum 65 000 dollars. C'est un problème sérieux de l'octroi. C'est bien de sanctionner, c'est bien de supprimer. Mais ce sont les autorités établies qui accordent droit minier à ces gens. Est-ce qu'on respecte ces procédures? Et l'argent qui est payé, est-ce qu'il est bien canalisé? Voilà le premier point, madame. Donc, est illégal tout site qui n'a pas été autorisé. Et également illégal, tout site qui est exploité en violation des normes environnementales. Beaucoup d'exploitants, en usant de leurs droits, polluent l'environnement. Et lorsqu'on fait le contrôle au contact, on doit fermer. Autre chose, cette loi oblige aux entreprises minières d'effectuer des activités au profit des communautés locales. Ça n'a pas toujours été respecté. Voilà pourquoi je salue la décision du ministre. Mais on doit aller au-delà, madame. On doit aller au-delà. Parce que lorsqu'un site est déclaré illégal, on suppose soit il exerce sans autorisation étatique, mais qui a accordé ses droits à ces messieurs ou à ce groupe de messieurs? Deux, soit il exerce en violation des normes environnementales, minières et sociales. Mmh. Donc, au-delà de la fermeture, il faut une vulgarisation du code minier. Deuxième chose, il faut un contrôle approprié. Il y a toute une inspection des mines au niveau du ministère. Mais ces inspecteurs, c'est la cour d'eau dans leur bureau climatisé. L'on doit descendre sur terrain pour vérifier est-ce que l'activité minière ne pollue pas l'environnement? Est-ce que l'entrepreneur minier respecte les droits des communautés locales? Est-ce qu'il paye les taxes? Est-ce qu'il paye les impôts? Est-ce que l'argent collecté est vraiment dirigé, canalisé vers les trésors publics? Parce que il est démontré en finances publiques que la première source budgétaire demeure le secteur minier. Et au Congo aujourd'hui, les économistes le démontrent, les secteurs miniers financent les budgets à 40%. Donc, au-delà de la fermeture, on doit faire un travail en amont, vulgariser les codes miniers, sensibiliser les entrepreneurs et contrôler effectivement cette activité. Il y a même aussi des gens qui exploitent dans des sites interdits. Exemple, d'après la loi, exploiter dans un cimetière, c'est interdit. Exploiter dans un parc, c'est interdit. Mais il y a des mouvements rebelles, il y a des Chinois, il y a des expatriés qui exploitent même dans les sites juridiquement interdits, comme les cimetières, comme les parcs agro-industriels et que sais-je. Voilà, à mon avis, madame, la petite intervention que j'ai voulu apporter pour saluer cette mesure. Mais il faut, au-delà des mesures conjoncturelles, des mécanismes structurels. Car le secteur minier est un secteur riche qui fournit en premier les budgets de l'État. S'il est mal géré, on n'aura que malheur sur malheur.
Merci beaucoup, Maître Omar Kigalo. Depuis Kinshasa, nous nous rendons à Beni, dans le Nord Kivu, pour prendre le point de vue de Luanzo Meshak. Bonjour, Meshak. Meshak, veuillez activer votre micro et si votre poste récepteur est allumé, veuillez également l'éteindre pour qu'on puisse bien communiquer. Est-ce que vous nous écoutez, Luanzo Meshak?
Oui, bonjour madame la ministre, madame la journaliste.
Je suis journaliste, monsieur Luanzo Meshak. Merci, nous parlons de cette décision prise par le ministre de Mines sur la fermeture des sites illégaux d'exploitation d'or. Quel est votre point de vue par rapport à cette décision?
Oui, je vais vraiment partir directement aux thématiques d'aujourd'hui parce que nous remercions d'abord le ministre de prendre cette décision dans ce pays ici. C'est pour cela que la thématique d'aujourd'hui dans ce pays où les autorités font preuve de respect mutuel, la mesure prise par les ministres est très salutaire. Mais madame, nous sommes dans un pays où les autorités ne respectent pas la vie des autres. Je donne l'exemple, partir aujourd'hui le matin. Aujourd'hui, matin, j'ai suivi les informations à la radio au Papi. Il y a une grève déclenchée au niveau de Kinshasa, des agents publics de l'État, qui réclament leur 8 mois impayés. Vous voyez, donc il y a des autorités qui sont dans ce pays qui ne passent pas la vie des autres Congolais.
Mais alors, quel rapport avec notre sujet d'aujourd'hui?
Oui, madame.
Ouais, quel rapport hein, avec notre sujet d'aujourd'hui? Nous parlons de la fermeture des sites illégaux d'exploitation d'or. Si vous pouvez revenir à notre sujet.
Oui, là, nous disons merci aussi. Et dans ce pays, si nous allons dans l'exploitation des mines, vous allez trouver qu'il y a des étrangers, des Chinois, qui ont l'habitude toujours d'exploiter des minerais illégalement. Et si l'OP estime à pourcentage, ce site illégaux d'exploitation de l'or, vous constaterez avec moi, au moins 70% appartiennent aux militaires et les étrangers. Vous allez voir les trésors, c'est moins nombreux là-bas qui travaillent légalement sans mandat du gouvernement. Mmh. Alors, la question qui se pose est la suivante. Le ministre a-t-il eu le temps d'imaginer ce qui pourrait en venir, ce qui pourrait arriver plus tôt, lorsque cette mesure sera appliquée? Que vont devenir les familles qui y travaillent, donc les familles de clergés, parce que nous sommes dans un pays qui est à cœur. Mmh. Selon moi, ce que je pense, moi, madame la journaliste, ce que je pense, le moment n'est pas encore opportun pour que cette mesure soit prise par les ministres.
Donc vous pensiez que c'est mieux de laisser continuer ces désordres dans ce secteur parce qu'il y a des familles qui en dépendent?
Bon, ce n'est pas des désordres qui sont mis approfondis. Automatiquement, les ministres pouvaient se préparer là qu'on va accepter directement les familles là. Parce que quand ils vont quitter là-bas, est-ce que ça ne peut pas créer de problèmes de telles personnes se comportent dans le temps de créer encore une sécurité dans l'entité en question? Donc, les ministres pourraient être prudents de voir si, après la mesure sera appliquée, comment nous pouvons nous comporter comme autorité, comme gouvernement, pour garantir la vie de la paisible population. Mmh. Parce que les créateurs qui sont là, nous voyons c'est toujours la jeunesse qui est toujours impliquée dans ce dossier. Mmh. Et sont nombreux là-bas. Mmh. Il faudrait que le gouvernement puisse prendre une décision de voir comment garantir la vie de ces créateurs et de ces familles-là pour
après la fermeture des sites. Merci beaucoup, Luanzo Meshak, pour votre intervention depuis Beni. On se rend à Kindu dans le Maniema pour prendre l'avis de John Omandé. Bonjour. John Omandé, veuillez activer votre micro et prendre la parole.
Merci beaucoup. Bonjour, madame. Bonjour à notre équipe en ligne et bonjour à tous les autres.
Malheureusement, on a du mal à suivre John Omandé. Si vous pouvez vous déplacer un tout petit peu, déplacez-vous pour qu'on puisse améliorer la qualité de cette liaison téléphonique. John, oui, allez-y.
Là, vous me suivez?
On vous capte 5 sur 5.
Merci beaucoup. Alors, je crois que cette décision s'inscrit dans une volonté, bien sûr, de formalisation du secteur minier et d'augmentation des respects publics. C'est tout à fait logique. Mm. Mais les enjeux sont tels que, madame, cette fermeture du Britain peut créer des effets négatifs. Et vous en êtes consciente, madame.
Quels sont ces effets? Oui.
La perte des revenus pour des milliers de créateurs artisanaux. Mm-hmm. Et là, vous savez, la conséquence, si la production diminue, je suis tout à fait économiste là, si la production diminue, c'est le chômage qui s'accroît. Mm. Et par sur quoi, même le taux d'imposition va se rabaisser. Mais il faudra aussi signaler une chose très importante, madame, que nous on appelle le confinement. C'est-à-dire que
ces gens-là, les artisans, iront se déplacer dans d'autres zones illégales et continueront à faire ou à pratiquer les mêmes actes qu'on leur avait répondu. Mm. Mais il y aura aussi des tensions sociales et voies sécuritaires, madame. D'où ceci devrait être expliqué. Il y avait un accès facile au système informel et encadrement, voilà. Si ces secteurs, il faut avoir un encadrement. Nous proposons, en tout cas, la formalisation progressive, créer des coopératives et minières.
Mais est-ce que c'est pas à ces artisanaux de s'organiser justement en coopérative? Il existe la CESCAM le CESCAM qui encadre le secteur minier artisanal.
Bien sûr que oui, mais l'État doit les accompagner. C'est l'État qui doit diriger les secteurs. Il doit accompagner ces artisanaux.
Mais puisqu'il existe, il existe déjà des structures, qu'est-ce que l'État doit faire en plus des structures déjà existantes? Qu'est-ce que vous proposez?
Encadrement et inspection des mesures. Est-ce que ces mesures qui sont prises à Kinshasa sont bien sûr respectées dans les terrains, sur les terrains?
Mm.
Madame, c'est ce que l'État devrait faire.
Mm. Merci beaucoup, John Omandé. C'était donc votre intervention à partir de Kindu. Nous allons rejoindre Maître Aimé Mulumbu qui nous appelle depuis Bounia en Ituri. Maître Aimé, veuillez activer votre micro. John Omandé, merci. On a retenu votre intervention. On va passer à celle de Maître Aimé Mulumbu qui est à Bounia. À qui nous demandons d'activer son micro et d'éteindre son poste récepteur s'il est allumé. Maître Aimé Mulumbu, bonjour. Apparemment, il a coupé son micro. Maître Aimé Mulumbu, veuillez activer votre micro et prendre la parole.
Bonjour, madame la directrice.
Bonjour.
Et tous les auditeurs qui nous suivent à la radio Okapi.
Oui, votre intervention par rapport à notre thématique du jour.
Oui, par rapport à notre thématique du jour, je suis très satisfait par rapport à la décision prise par le ministre. Je crois, même si ici, on avait aussi pris la même décision, Et puis, c'est lui-même le ministre qui était venu arranger cette histoire pour délibérer à ce que les exploitants travaillent. Vous savez, madame la journaliste, à ce qui concerne les exploitants légales dans notre pays, après, il y a beaucoup de choses qui sont quand même que nous puissions mettre en point. Vous savez, quand je parle de l'exploitation légale, quand vous essayez de vérifier dans le droit de WADA, acte uniforme relatif aux activités coopératives, vous verrez que si vous lisez dans l'article 4, l'article 3, l'article 8, l'article 4 parle de la description, l'article 3 parle des choix de forme, et l'article 8 parle des processus de création, en tout cas, vous verrez que la plupart des coopératives ne sont pas légales. Pourquoi je dis ça? Vous verrez qu'il y a des coopératives qui sont des coopératives malhonnêtes, qui n'ont ni zéa, ni capitaux. Mais qui se disent être des coopératives. Mais tout ça, c'est au niveau de ça, des ministères qui créent ces désordres. Normalement, avant de signer l'agrément d'une coopérative, le ministère devait d'abord se référer par rapport au service technique qui est la division des mines pour voir si réellement la personne en question qui cherche à accéder à une coopérative est avec. Alors, avec ça, le fait qu'il y ait là-bas, il faut les choses pour se libérer, ça crée maintenant une maladie au niveau de la province.
Donc, vous pensez que ces désordres est entretenus par le service des mines?
Si, il y a même des exemples qu'on peut énumérer, mais compte tenu des temps, parce qu'il y a assez de gens qui
attendent. Il y a Jonathan Bantou et Aristide Mosengo qui attendent aussi d'intervenir, alors qu'on s'approche vers la fin de cette émission.
Je vais parler rapidement en recommandation. Alors, je disais ceci, donc, première recommandation, je parle de la sécurisation des zones minières. Donc, déployer des unités spécialisées pour sécuriser les sites et les axes d'évacuation des minéraux. Deuxièmement, créer des zones d'exploitation artisanale sécurisées, clairement délimitées pour réduire l'emprise des groupes armés. Réduire le nombre de services intervenant sur les sites pour lutter contre la piraterie. Digitaliser la délivrance de permis et paiement pour limiter la corruption et accélérer les procédures. Là, je parle d'un réseau de mines où il y a assez d'agents qui ne sont pas payés par la fonction publique, mais qui se rendent aussi, au lieu de percevoir les droits dits à l'État, ils sont facilement corruptibles, facilement manipulables parce que et vous n'attendez rien à la fin du mois.
Merci beaucoup, Aimé Moulumbu, pour votre intervention depuis Bounia. Nous allons nous rendre à Bondoundou pour prendre le point de vue de Jonathan Bantou. Bonjour, Jonathan. Rebonjour.
Oui, bonjour, madame.
Et allez-y rapidement, bonjour. Parce qu'il y a Aristide Mosengo qui attend aussi d'intervenir avant la fin de cette émission.
Oui, Jonathan Bantou, scolastique de Bounia. Je m'en vais avec ces deux questions.
Malheureusement, notre invité n'a pas pu rejoindre ses studios. Si vous avez une observation, un enrichissement, un avis à donner, allez-y. Mais les questions, on ne pourra malheureusement pas les prendre parce que notre invité n'a pas pu rejoindre ses studios.
Oui, en fait, moi, j'accueille la décision du ministre de Mines de fermer les questions de l'ordre, car elle vise à remettre de l'ordre dans un secteur très important pour l'économie nationale et lutter contre la fraude. Et la... Alors, quant à eux, je proposerais à l'État de voir certaines mesures de fermer les sites sans créer du chômage massif pour les jeunes qui vivent déjà de l'exploitation artisanale.
Merci. Merci Jonathan Bantou. Merci Aristide Mosengo, Magui, qu'on n'a pas pu prendre malheureusement faute de temps. Merci à tous ceux qui nous ont laissé leurs commentaires sur notre page Facebook. Parole aux auditeurs. On aura certainement le temps de vous accorder la parole dans notre prochaine émission. En tout cas, merci d'avoir été nombreux. Alain Tchiaba Bena sur notre page Facebook. Gentil Basuekou Amba, Mungu Jakissa, Eric, John Louessa, Jonathan Bantou, qui intervenait tantôt, le bon Moussagi, Christophe Kalagba, Céleste Amouloua, Blaise Saïdi, que nous avons écouté. Merci à vous d'avoir participé à cette émission. Merci de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur la fréquence de la paix.